Ça doit être ça.
Jérémy Demé et moi, on reçoit des textos, des messengers, des Facebook. Toute la planète se met à vibrer. Évidemment, je blague un peu la planète, notre petite planète ici à nous deux, mais nos auditeurs ont beaucoup réagi à notre discussion. Jérémy, merci de nous permettre de discuter de ce sujet dont on parle rarement. Puis se joint à nous Denis Bouchard, mon ami, comédien, metteur en scène, grand voyageur. Oui. Merci d'être là, Denis.
Ça fait plaisir.
Et puis tu reviens à l'instant quasiment, là, hier, cette semaine.
C'est ça, cette semaine, oui.
Tu es revenu d'un périple à Kurdistan, Arménie, Géorgie.
Ouais.
Genre de place où on va pas souvent.
Non, non, c'est ça. Je vais faire une série là-dessus. Les voyages que vous ne ferez jamais. Ouais. Je suis rendu là. Je pousse tout le temps plus loin. Puis d'aller voir ce qui se passe. Aller voir aussi des pays où il y a eu la guerre. Où la guerre est imminente aussi. T'sais, en Géorgie, l'armée russe est à 40 km de Tbilissi, la capitale. Là, fait que c'est un pays en sursis. T'sais.
Où tu dis que t'as vu le plus bel hôtel de ta vie?
Écoute, l'hôtel Stamba, ça vient de gagner le meilleur hôtel en Europe. C'est hallucinant.
Et toi, tu voyages 5 étoiles?
Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je me fais upgrader. Monsieur Bullshit, moi, tu sais.
Genre?
Qu'est-ce qu'il fait de
nous? Nous, on est dans la vérité avec Jérémy depuis tout à l'heure. Et là, Monsieur Bullshit arrive.
Je dis, gars, il est vide, votre hôtel, là, tout ça. Là,
faites-moi un petit rabais.
Regarde, moi, je vais vous faire de la publicité. Je vais en parler partout dans le monde. Fait que donnez-moi ce que vous avez de mieux. Puis, tu sais. Puis je voyage tout le temps. Ces voyages, ce que j'appelle mes voyages fuckés, là, je fais ça avec mon grand chum Sarto Blouin. Fait que, puis Sarto, il est avocat, lui. Fait que, tu sais, lui a toujours des arguments toutes sortes de nature légale. Là, fait que,
et qu'est-ce qui fait, Denis, que tu vas dans ces pays-là précisément?
Il y a plusieurs raisons, là, mais j'ai fait à peu près une centaine de pays, fait que retourner à Paris pour la 182e fois, ça ne m'intéresse plus. Fait que j'essaie, je suis fasciné par des pays dont l'identité est précaire, parce que ça m'interpelle beaucoup. C'est quoi l'identité? Alors, je vais dans des pays où l'identité, c'est pas clair, ou enfin, il y a une identité très forte, mais où ça peut basculer n'importe quand.
Ah, ils se battent pour leur identité.
Oui, carrément. Carrément. Tu sais, les Kurdes, c'est 40 millions d'habitants. C'est le plus grand peuple qui n'a pas de pays. Oui. Ils sont à cheval sur 4 pays. T'as un Kurdistan qui est en Turquie, le plus gros des 4. Après ça, t'as une partie qui est en Syrie, une partie en Irak, puis une partie en Iran. Pour ne pas aider les choses, les 4 ne s'aiment pas. T'sais, ils se sont tous pognés les uns avec les autres. Bref, alors le Kurdistan irakien, qui est une façon de rentrer en Irak, qui ont battu l'État islamique à peu de choses près, grâce à des armes américaines, mais quand même. Alors, j'étais curieux d'aller voir c'est qui ces gens-là, comment ils font pour...
Et tu rentres facilement dans ces pays-là?
Ah, mon Dieu, c'est... Écoute, de Istanbul, tu vas à Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien.
Ah, t'es passé par la Turquie.
Hein? Oui, il faut que tu passes par la Turquie.
T'es allé à Diyarbakir?
Non, j'ai fait Montréal-Istanbul. Enfin, j'étais à Paris, là, je travaillais à Paris. Fait que j'ai fait Paris-Istanbul, Istanbul-Erbil. Ah. J'ai pas été à Bagdad, okay, passé par Bagdad. Parce que pour aller
parce
au
moi,
Kurdistan...
Moi, je connais le Kurdistan turc, oui, avec Diyarbakir, qui est magnifique, Il y a l'Arche de Noé, il y a un vestige dont on croit que c'est l'Arche de Noé. C'est fascinant, c'est magnifique comme paysage.
Oui, c'est très, très beau. Puis mais ça, c'est du côté turc. Eux autres ne parlent pas avec les
Irakiens.
Les Kurdes irakiens, ils ne s'aiment pas. Bon, bref, tu peux, quand tu arrives à Erbil, tu n'as même pas besoin de visa. On donne automatiquement
visa.
Non, tu n'as même pas besoin de visa. Par contre, si tu veux sortir du Kurdistan, parce que le Kurdistan, c'est comme une enclave, c'est comme une province sécessionniste à l'intérieur de l'Irak. Si tu veux aller, mettons, à Bagdad ou à Babylone, il faut que tu demandes un autre visa au gouvernement irakien. Et celui-là peut te coûter la peau des fesses.
Ça
peut
te
coûter jusqu'à 1 500 piastres
US. Et tu es allé finalement?
Non. Non, parce que tu ne vas pas là, parce que c'est la corruption la plus totale. Fait que, t'sais, tout le monde peut dire ton passeport n'est plus bon ou quoi que ce soit. Alors que quand tu es au Kurdistan, tu as des checkpoints partout, l'armée est partout, mais il ne peut rien t'arriver là.
Fait qu'ils protègent les touristes en mettant un visa cher finalement?
Ben, ils se protègent eux-mêmes parce que la guerre est surtout du côté irakien. L'État islamique n'est pas rentré. Ils sont allés jusqu'à Mossoul. Puis c'est à peu près à 40-50 kilomètres d'Erbil.
Mais t'as pas eu peur, jamais?
Jamais.
Tu t'es pas senti en danger?
Non. J'ai plus peur quand je vais à Paris que quand je vais là.
Ça, c'est
étrange. Ah oui, mais t'es collé dans le métro à Paris, puis tout le monde a peur. Là-bas, il peut rien t'arriver.
T'étais à Paris, là, dernièrement? Avant les Gilets jaunes?
Oui, ben non, pendant les Gilets jaunes, mais j'ai pris un hôtel à l'aéroport parce que je voulais même pas rentrer dans la ville.
Est-ce que les touristes sont protégés dans des pays comme ça où
t'es allé? Mon Dieu, oui. Puis comme on est peu nombreux... Puis c'est curieux de voir comment tout le monde est honnête là-bas. Il peut rien t'arriver. T'échappes ton passeport à terre, tout le monde va te le ramasser. Il y a même pas de clé. Les commerces sont dans les bazars, tout ça. Il y a personne. Tout le monde laisse les étals. Personne va voler. Fait que c'est curieux de voir ça. Des peuples aussi honnêtes et des systèmes politiques aussi pourris. T'sais. Parce que c'est hallucinant.
Ah, mais ouais, c'est très raison. Vrai ce que tu dis. Moi, je suis allée dans. J'ai fait la Turquie de long en large. J'ai couché à un moment donné dans chez un marchand de tapis que je connaissais pas.
Ah ouais?
Écoute, il aurait pu m'arriver. Minimalement me voler.
Un rang.
Et d'autres choses. Mais j'ai comme. Des fois, t'as des bulles au cerveau quand t'es voyageur. C'est pas touriste, c'est une autre posture mentale, le genre de voyage que tu fais. C'est pas touriste. T'es pas un touriste. Non. Tu cherches pas à aller manger des spaghettis boulettes.
Tu peux pas manger des shish kebab.
Exactement. Tu vis comme les gens du coin. Fait que c'est une posture mentale différente.
Oui, puis ils sont. Tu sais, le Kurdistan, c'est pas très grand, c'est à peu près 4-5 millions d'habitants. Et c'est très riche, très, très riche. Il y a des grues partout. Tu arrives à Erbil, tu as l'impression d'arriver à Dubaï. Fait que tu dis, mon Dieu, Sonia, c'est pas un pays qui est en guerre. Mais la guerre est juste à côté.
De quoi ils vivent s'il y a peu de touristes?
Pétrole. Puis c'est les nouveaux amis des Américains. Les Américains les ont armés. C'est très laïque. Ça se veut très laïque. Contrairement à ce qu'on pense. Bien sûr, tu as l'État islamique pas loin qui est très rigoureux, qui est un islamiste radical. Mais quand tu vas en Irak, ou du côté kurde, ou quand tu vas en Iran, par exemple, tu te rends compte que la religion, surtout les femmes, ils en ont ras-le pompon. En Iran, le voile recule d'un centimètre par année, tellement. Dans 5 ans, ça va être un châle plus que d'autres choses. T'sais. Puis c'est la même chose au Kurdistan. T'as des centres d'achat. Moi, j'ai pris des films. J'ai dit, mais mon Dieu, où suis-je? J'avais l'impression d'être à Istanbul.
T'sais. Ah ouais. Je suis fasciné, par exemple, que les politiques soient pourries, mais que les gens soient si honnêtes et si ouverts.
Oui, t'as deux clans au Kurdistan. T'as deux grandes familles. T'as les Barzani qui ont le nord et t'as les Talabani qui ont le sud. Puis eux autres étaient en guerre civile. Les Américains les ont convaincus de s'entendre, moyennant pépette et moyennant beaucoup d'argent, beaucoup de subventions. Mais le plus absurde, c'est que tout le monde a besoin d'une affaire comme l'État islamique. Tout le monde
On parlait de la vérité avec Jérémy Demé tout à l'heure. Comment t'arrives à avoir vraiment la vérité de qui fait quoi, qui prend pour qui, tu comprends?
C'est compliqué.
Dans ces pays-là, comment est-ce que tu nous expliques? Bon, tu te l'es fait sans doute expliquer par des gens là-bas, mais tu sais, comment savoir que t'es dans le bon camp ou que tel camp vaut pas plus ou, tu comprends ce que je veux dire? C'est comment savoir?
J'ai rencontré plusieurs personnes.
Qu'est-ce qui se passe? Ça prend des fixeurs quand tu vas dans ces pays-là.
Ça prend des gens qui sont aussi objectifs. Un peu. J'ai rencontré aussi une femme extraordinaire qui était la directrice de l'American University of Soleimani, tu sais, les universités américaines, il y en a un peu partout dans le monde. Et elle m'expliquait que, tu sais, l'accent qu'ils mettent, c'est sur l'éducation des femmes. C'est ça la solution par rapport à l'islamisme radical, tout ça. Plus tu éduques les femmes, elles vont éduquer les enfants, puis ça va changer, les mentalités vont changer.
C'est
le Kurdistan est très, très, très évolué. Comparativement à ce que j'ai pu voir dans d'autres pays, là, au niveau des femmes, au niveau des femmes à l'université. C'est très impressionnant.
On va s'arrêter ici. On est en compagnie de Denis Bouchard qui nous raconte son périple Kurdistan, Arménie, Géorgie. On parle d'identité. C'est fascinant de t'entendre parler de ça. Mmh. Tu savais qu'il était historien aussi, Jérémy?
Je savais pas, non.
Ah non, mais lui,
amateur. Mais fasciné par l'histoire.
Très bon, ouais. Il y a plein de ressources, ce gars-là. Vraiment. Jérémy Demy est avec nous également. Finalement, je t'ai gardé.
Ben oui.
Fait qu'on revient après la pause.
Avec plaisir.
On est en train de se faire raconter les derniers voyages du comédien metteur en scène Denis Bouchard et c'est fascinant. Mmh. Jérémy Demy, humoriste qui est avec moi également, est très intéressé par ça parce que c'est le genre de pays où on ne va pas, tu l'as dit, la plupart des gens ne voyagent pas dans ces pays-là. D'abord parce que ça prend, faut un minimum de préparation, faut un minimum de temps aussi. Quand tu pars comme ça, tu ne pars pas une semaine.
Ben, autour de, tu sais, je veux dire, en une semaine, avec un guide puis un chauffeur, le Kurdistan, tu fais
trois pays en une semaine?
Non, pas du tout. Non, j'ai fait une semaine.
Voilà, donc c'est 3 semaines.
J'ai passé une semaine en Géorgie aussi
pour
aller voir
temps,
un peu, puis une autre semaine en Arménie à côté, tu sais. Mais
complètement autre chose, l'Arménie.
Ah, écoute, c'est complètement... Mais en même temps, là c'est la résilience de ces gens-là. Tu sais, ouais. C'est deux petits peuples de 3-4 millions d'habitants qui sont à côté des empires, qui turcs ou qui russes, qui ont leur alphabet, leur propre langue, que personne ne parle. Tu sais, les Arméniens, il y a une grosse diaspora, mais les Georgiens, ils sont 3 millions à parler ça, plus peut-être un autre million à l'extérieur.
C'est vrai.
Un alphabet, tout... Tu rentres dans la ville, c'est une ville d'un million d'habitants, il y a 15 musées, 25 théâtres, c'est archi-culturel.
En Géorgie, ça?
À Tbilissi, ah, c'est hallucinant. Mm.
C'est des noms de villes que j'ai jamais entendues de ma vie.
C'est la capitale, ouais. Il y a plusieurs façons de le prononcer, là, mais c'est magnifique.
Ah ouais?
En fait. Magnifique.
Et là, donc, ton prochain... Toi, tu dis que c'est devenu une drogue voyager comme ça,
ouais,
je te
comprends tellement.
Et là, ton prochain voyage?
Ben, je sais pas, peut-être... Peut-être l'Albanie, puis la Macédoine, puis le Kosovo, puis j'aimerais ça retourner à Sarajevo. J'y étais, mais dans les années 80, puis j'aimerais ça là voir comment ils se sont relevés de ça, tu sais. Cette guerre épouvantable qu'ils ont eue. Comment tu te reconstruis après, tu sais. Fait que ça serait probablement les Balkans, ouais.
Mais t'as dit un bon point d'ailleurs, Denis, j'ai trouvé magnifique, ça, c'était en relation avec ce qu'on parlait avec Isabelle au début. Tu disais, tu sais, on a beau s'insurger contre les politiciens, la solution reste qu'éduquer nos enfants à changer.
Et particulièrement les femmes.
Les femmes et les enfants.
Particulièrement les femmes.
Parce qu'ils vont grandir.
Ça, l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est l'éducation des femmes. Puis ça, tous me le disent.
Dans ces pays-là.
Ah, tous ces pays. Surtout dans les pays musulmans.
Parce que les femmes vont éduquer les enfants. Ouais. Les enfants vont devenir des nouvelles hommes politiques de
plus tard. Ils ont des crottes à manger parce que pas tout le monde a compris le concept. Hein?
Non, mais comme je te dis, contrairement à ce qu'on est porté à croire, le Kurdistan a une grosse...
Mais tu parlais de l'Iran, tu sais, l'Iran, là.
Mais l'Iran, ben oui, mais l'Iran, c'est pas le peuple, c'est le système.
C'est le gouvernement.
C'est le gouvernement, mais le peuple...
Mais il y a des gens qui suivent aussi, tu sais, il y a beaucoup de familles iraniennes, les hommes vont stouler les femmes qui sont pas voilées, qui prétendent à une vie un peu plus occidentale.
Moi, ce que j'ai senti, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Mais prochaine génération, là. Merci, bonsoir, c'est fini.
Il permet l'éducation aux femmes dans ce pays-là?
Ils n'ont pas le choix. Ils ne savent pas quoi faire avec les femmes. Fait que les hommes s'en vont travailler sur le marché du travail. Et comme l'éducation est gratuite, ils envoient les femmes dans les universités. Fait que tu te retrouves avec un pourcentage de femmes excessivement instruites avec des maris qui ont des jobs de vendeurs. Fait que c'est ça qui va tout changer.
Wow! T'sais. Fait qu'ils éduquent leurs enfants qui vont grandir.
Oui, toutes les femmes parlent anglais, tu sais. Ce qui n'est pas le cas des maris.
Et tout à l'heure, il y a eu une question, Isabelle?
Oui, il y a quelqu'un qui demande, c'est Michel qui voulait savoir, Denis Bouchard, dans quel pays tu n'irais absolument pas?
Ça, c'est une bonne question, ça.
Ouais.
Ben, pour le moment, je n'irais pas au Venezuela, par exemple.
Oh, c'est quoi? Parce que la situation des Vénézuéliens, c'est terrible.
Ben oui, puis j'ai déjà été au Venezuela il y a bien des années, dans le temps qu'on allait à Margarita. J'étais arrêté à Caracas, pas à Mérida. Mais là, j'irai pas là parce que t'as plus de droit commun, t'as plus gassé n'importe quoi. Là. Tu vas te faire lapider en sortant de.
Ah, à ce point-là?
C'est grave. Et on n'en parle à peu près pas des Vénézuéliens.
C'est vrai qu'on n'en parle pas.
Vraiment.
Ça, j'irai pas là pour le moment. T'sais. J'irai pas en Syrie.
Tu sais qu'il y en a beaucoup de Vénézuéliens à Montréal.
Oui, beaucoup.
Le chum de ma fille est vénézuélien.
Combien de langues tu parles, Denis, toi?
Anglais, français, il va sans dire. Je me débrouille assez bien en espagnol.
Oui.
Puis j'ai des rudiments, là, tu sais, je suis capable, j'ai travaillé beaucoup dans les pays slaves, fait que je suis capable de, le cyrillique, je suis capable de le lire. Je sais pas toujours ce que je lis, mais je suis capable de le lire, je me débrouille.
Okay. Est-ce que tu vas toujours dans le pays avec un peu de quelques phrases dans la langue du coin pour essayer d'avoir une conversation?
Toujours, j'apprends toujours une couple de mots, j'essaie d'apprendre, tu sais, dans le cas des alphabets comme les Arméniens ou les Georgiens, mais j'essaie de reconnaître une couple de lettres.
Ouais, ouais.
De me dire, bon, ben, gars, en général, c'est des alphabets qui se déclinent pas, là, tu sais, fait que
ils sont étonnés de voir un Québécois?
Oui.
Ils connaissent le Québec?
Oui, de façon générale, ils connaissent Montréal, oui. Puis de façon générale, ils connaissent le Canada, tu sais. Ils sont forcés d'admettre que Trudeau a fait une grosse job
Justin,
de PR.
Justin Trudeau, ben oui.
Mais ils connaissent Montréal, oui, pour le moins. Fait que... Ils savent à peu près qui on est. Mais je suis arrivé en Géorgie, puis c'était le jour des élections. C'était assez fascinant. La veille des élections, c'était assez fascinant. Tu avais une femme, une candidate qui se prenait pro-Europe et un candidat pro-Poutine. Et c'était la rencontre de ces deux mondes-là. Puis la panique, tu sais, les gens qui disaient « Si vous votez pour elle, ben les Russes vont nous envahir. » C'est la même chose que... quand t'as des affaires ici, des élections, puis qu'ils disent, les vieux, vous allez perdre votre pension alimentaire si vous votez pour des indépendantistes.
Charlie Brown!
Ça même,
je veux absolument dire, avant de vous laisser, supplémentaire le 31 janvier, 1er 2 février, de ta pièce, Le Dernier Sacrement.
Venez nous voir.
C'est au Théâtre Outremont.
À la demande générale, je suis bien content. Ça va très bien. On va faire une grosse tournée à travers le Québec. Puis c'est une comédie qui se passe aux soins palliatifs avec un volet immersif, comme tu le sais, là, avec les gens. Quand les gens arrivent, ben, ils sont identifiés à des familles, puis il y a des figurants qui sont là, puis qui font des patients, puis on les amène là-dedans, puis on les amène éventuellement dans le théâtre, où est-ce qu'on un vieux monsieur, qui est moi, joué par moi, puis qui questionne. Puis c'est une comédie sur la vie, la mort, puis ça rend hommage aux gens qui travaillent aux soins palliatifs.
Merci beaucoup, Denis Bouchard.
Merci.
Jérémy Demy, c'est un plaisir.
Merci, moi aussi, Isabelle.
Merci bien. Ça nous donne envie de voyager comme toi.
Voyager, c'est bien cool, la vie, puis il n'y a pas de guichet automatique en haut.
Ouais, effectivement.
Ou en bas.
Merci à tout le monde, on se retrouve demain. Passez une très bonne journée à notre antenne.